Cette semaine, notre beau pays et notre belle ville de Lyon ont connu bien des troubles, je vous apprends rien. Grève, blocage, pénurie, manifestations, émeutes, pillages, etc. Je me demande si vous avez été comme moi cette semaine, devant les informations. Vous avez vu ces cortèges de manifestants? Vous avez lu les bannières, vous avez entendu le discours des représentants syndicaux qui ont organisé le blocage de certains ports et de certaines raffineries. Et vous vous êtes dit que ces gens méritaient tous d'être envoyés et qu'il fallait confier leur boulot à des gens qui avaient vraiment envie de travailler. Vous vous êtes dit qu'heureusement, vous, comme moi, on a une éthique chrétienne du travail. Quand même, c'est bien. Nous, au moins, on vit pour autre chose que pour notre retraite. Vous vous êtes dit que vous saviez qu'il y avait un Dieu et qu'il y a un au-delà et qu'un repos éternel vous était destiné parce que vous êtes un croyant. Et donc, on vous éprendrait jamais, vous, à faire l'enfant gâté dans la rue qui pense que le monde entier doit se soumettre à ses petits caprices égocentriques. Et puis, vous avez vu les casseurs. Alors, les casseurs. Ah, ces petits voyous hein, qui méritent d'être matés une fois pour toutes par les CRS. Un peu de prison ou bien qu'ils soient expulsés du pays, ça leur apprendra. Et puis, les lycéens. Ah, les lycéens, avant de penser à la retraite, qu'ils aillent à l'école et qu'ils passent leur bac. Ce serait déjà bien. Ces gamins ne savent même pas ce que c'est, la vraie vie. Pas comme vous. Pas comme moi. Moi qui ai une éducation. Moi qui ai une vision biblique et chrétienne du monde. Moi qui ai une relation avec Dieu. Pensez-vous, je suis bien placé pour parler du monde dans lequel on vit. Eh bien, mes amis, j'ai une confession à vous faire ce matin. Ce genre de réflexion que je me suis fait tout au long de la semaine m'a douloureusement révélé mon propre orgueil et ma propre suffisance. C'est exactement ce genre d'attitude que Dieu veut corriger dans le texte qui nous intéresse ce matin. Il s'agit, je l'ai dit, des derniers versets de la prophétie d'Amos, et comme vous allez le voir, Dieu va encore une fois, dénoncer le péché de son peuple, mais ensuite il va changer de ton. Pour finir sur une note incroyablement positive. Alors si ça fait plusieurs semaines que vous suivez les messages dans le livre d'Amos, vous allez voir qu'effectivement il y a bien un changement de ton et une note incroyablement positive étant donné tout le reste qu'on a vu jusqu'à présent. Les toutes dernières paroles de Dieu par la bouche d'Amos vont constituer très explicitement une excellente nouvelle pour le peuple, pour les destinataires de la prophétie. Et cette bonne nouvelle, elle concerne quoi? Elle concerne la grâce inouïe de Dieu. Mais si Dieu, à la fin de cette prophétie, comme on va le voir dans quelques instants, si Dieu veut parler de la grâce incroyable qu'il réserve à son peuple, c'est pas pour annuler tout ce qu'il a dit jusqu'alors concernant le péché du peuple, concernant les terribles jugements qui sont à venir contre le péché du peuple. Dieu veut magnifier sa grâce, au contraire, pour, si j'ose dire, pour enfoncer le clou et finir de détruire la présomption du peuple. Et ce matin, en ce qui nous concerne aussi ce matin, Dieu veut magnifier sa grâce pour que notre orgueil se transforme en humilité, pour que notre suffisance se transforme en reconnaissance et pour que notre condescendance se transforme en compassion. Regardons le texte. Chapitre 9, donc, du livre d'Amos. Et on va lire à partir du verset 7 jusqu'à la fin. N'êtes-vous pas pour moi comme les fils des Éthiopiens, fils d'Israël, oracle de l'Éternel? N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte comme les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kir? Voici que le Seigneur l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de la surface de la terre. Toutefois, je n'irai pas jusqu'à détruire totalement la maison de Jacob, oracle de l'Éternel. Car voici que je donnerai mes ordres et je ferai secouer la maison d'Israël par toutes les nations, comme on est secoué par le crible, sans qu'il en tombe à terre une seule parcelle. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, eux qui disent « Tu ne feras pas approcher le malheur, et tu ne le feras pas arriver jusqu'à nous. » En ce jour-là, Je relèverai la cabane chancelante de David. J'en réparerai les brèches, j'en relèverai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'ils entrent en possession du reste des Dom et de toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Oracle de l'Éternel qui accomplit tout cela. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le jus de fruits ruissellera des montagnes, et où toutes les collines s'épancheront. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront le fruit, les fruits. Je les planterai sur leur terre et ils ne seront plus arrachés de leur terre, celle que je leur ai donnée, dit l'Éternel, ton Dieu. Prions. Nous te demandons, Seigneur, l'aide de ton Saint-Esprit maintenant au moment d'étudier ta parole, afin qu'il ouvre nos cœurs et notre intelligence, Seigneur, à tout ce que tu veux nous dire, et qu'il applique toutes les vérités que tu veux nous enseigner, Seigneur, qu'il les applique à notre vie pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Dans ce texte, donc, Dieu veut magnifier sa grâce, tout d'abord en nous montrant qu'il use avec nous d'une miséricorde souveraine. Il veut nous montrer qu'il use avec nous d'une miséricorde souveraine. Qu'est-ce que ça veut dire, miséricorde ? Ça veut dire que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, ou autrement dit, qu'il ne nous rétribue pas selon nos fautes. Qu'est-ce que ça veut dire, souveraine ? Ça veut dire que c'est entièrement à Dieu de décider si oui ou non, il va nous faire miséricorde. D'accord ? Une miséricorde souveraine. Regardons le texte. Dans les versets 7 à 10, Dieu affirme une chose incroyable, c'est que son peuple, son propre peuple, n'a pas à ses yeux de valeur intrinsèque supérieure aux autres peuples. Et il affirme qu'il va juger son peuple comme il jugerait n'importe quel autre peuple coupable. Vous avez noté ça, verset 7. « N'êtes-vous pas pour moi comme les fils des Éthiopiens, c'est-à-dire un peuple païen ?» Et ensuite il les compare aux Philistins et aux Syriens. En disant qu'il va juger son peuple comme il jugerait n'importe quel autre peuple coupable, Dieu est en train de dire tout simplement qu'il va le rayer de la carte, parce que c'est ça qu'il fait avec les peuples coupables. Non seulement cela, mais Dieu ajoute que parmi son peuple, il ne semble pas y avoir une seule personne qui soit juste. Tout le monde sera emmené en exil. Et lorsque les Israélites seront passés au crible de la justice de Dieu, selon cette image qu'il emploie, l'image d'un crible, pas un seul d'entre eux n'échappera au crible de la justice de Dieu. Le crible ici, l'image vous a peut-être paru bizarre ou difficile à comprendre. Le crible, c'est un outil particulier, un genre de filtre qui est censé retenir les impuretés et laisser passer le bon grain. Donc on récolte le grain, les céréales, et on les passe au crible. Et ce qui est de particulier avec ce crible, c'est que le bon grain est censé tomber. Et le filtre retient les impuretés. Donc ici, Dieu est en train de dire, il n'y a pas un seul bon grain qui va sortir de ce crible. Il n'y aura que des impuretés qui seront retenues lorsque Dieu passera son peuple au crible de sa justice. Quelle perspective funeste ! Et en même temps, et cela ne nous a pas échappé, Dieu ajoute un petit détail, en plein milieu de ce discours, à la fin du verset 8, avec cette conjonction tellement importante dans la Bible, le mot « toutefois ». Toutefois. Je n'irai pas jusqu'à détruire totalement la maison de Jacob. Toutefois, Dieu ne va pas totalement éradiquer son peuple. Dieu va exercer sa miséricorde. Il ne va pas traiter son peuple comme son peuple le mérite vraiment. Il va user d'une miséricorde souveraine. Mais il leur fait bien comprendre que ce n'est certainement pas en vertu d'une quelconque qualité qu'ils auraient en eux-mêmes que Dieu va faire ça. Pas du tout. C'est simplement le choix souverain de Dieu, de ne pas complètement éradiquer son peuple. C'est une miséricorde souveraine. Ce concept de la miséricorde souveraine, on ne peut pas le comprendre, nous, aujourd'hui, si on ne comprend pas à quel point on est perdu à cause du péché, à quel point on est coupable aux yeux de Dieu à cause du péché. À cause du péché, mes amis, tous les hommes, sans distinction, sont séparés de Dieu. Ils n'ont rien à faire valoir. Nous n'avons rien à faire valoir pour gagner la faveur de Dieu. Et Dieu ne doit rien à quiconque. Dieu ne nous doit pas sa faveur. Il ne nous la doit pas. Si vous êtes parents, vous pouvez peut-être plus facilement comprendre, grâce à vos enfants, ce que c'est qu'une miséricorde souveraine. Parfois, nous, en tant que jeunes parents, nous avertissons nos enfants de la manière suivante. Écoute-moi bien, mon coco. Pour la troisième et dernière fois, si tu jettes encore des petits pois sur ton frère, tu devras quitter la table et tu ne pourras pas manger avec nous. Évidemment, deux minutes plus tard. Ah, je t'avais prévenu, mon coco. Maintenant, tu quittes la table et tu vas dans ta chambre. Si vous êtes parents, ce genre de scénario doit vous sembler un peu familier. Enfin, j'espère qu'on n'est pas les seuls à connaître ça chez nous. Mais voici où intervient la miséricorde souveraine. Au cas où l'idée vous viendrait d'aller chercher votre enfant dans sa chambre avant la fin du repas et de l'inviter à s'asseoir de nouveau à table avec la famille, cette décision dépend entièrement de vous. Entièrement de vous en tant que parent. C'est une décision souveraine. Et elle voudrait dire, en fin de compte, cette décision, que vous n'allez pas rétribuer votre enfant selon ses fautes. C'est donc une décision non seulement souveraine, mais aussi miséricordieuse. Ce n'est pas une décision que vous risquez de prendre parce que vous pensez lui devoir cette faveur à votre enfant. Ce n'est pas une décision que vous allez prendre non plus parce que vous pensez que votre enfant mérite d'être traité avec magnanimité après avoir été averti 3 ou 4 fois de ce qui allait se passer. Et bien de même, dans ces quelques versets, ici, dans les versets 7 à 10, Dieu veut faire comprendre aux Israélites qu'il n'y a aucune raison chez eux, chez les Israélites, chez le peuple, pour que lui, Dieu, se montre miséricordieux à leur égard. Et pourtant, verset 8, deuxième partie du verset 8, il va quand même l'être. Il va quand même être miséricordieux, parce qu'il l'a décidé souverainement. Il n'y a pas de différence intrinsèque entre le peuple de l'Alliance dans ce texte et les peuples païens, ni d'ailleurs entre l'Église et le monde, ni entre les chrétiens et les musulmans. Il n'y a pas de différence intrinsèque. Il n'y a pas de différence intrinsèque de valeur entre la gauche et la droite, entre les CRS et les casseurs, entre les patrons et les syndicats, entre vous et les voyous. Dans le texte que Jonas a lu tout à l'heure, l'apôtre Paul écrit « Nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, c'est-à-dire peuple élu et peuple non élu, sont sous l'empire du péché, car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous. Arrêtons-nous un instant et réfléchissons-y. Quel mérite avons-nous à nous tenir ici ce matin? Quel mérite avons-nous à connaître Dieu, à pouvoir lire la Bible et la comprendre, à avoir place à la table du Seigneur et à pouvoir prendre part à tous ses nombreux bienfaits? Quel mérite avons-nous? En fait, quel mérite avons-nous de nous être réveillés vivants ce matin? Quel mérite avons-nous de vivre dans un pays relativement riche et relativement civilisé? Je dis bien relativement, mais quand même. Quel mérite avons-nous de ne pas être comptés parmi ces jeunes désœuvrés qui trouvent une triste satisfaction à casser les vitrines de la rue Victor Hugo comme ils l'ont fait cette semaine? Quel mérite avons-nous de ne pas être parmi eux? Dieu veut changer notre orgueil en humilité. Et pour cela, voici ce qu'il nous dit dans ces quelques versets. Il nous dit, écoute, Alex, tu ne vaux pas mieux que les autres. Alors pourquoi je te traiterais avec magnanimité, contrairement à la façon dont je traite les autres? Pourquoi je ferais ça? Et pourtant je vais te traiter avec magnanimité. Et pourtant je vais bien te faire miséricorde. Dieu est en train ici de magnifier sa grâce. Et bien dans la suite du texte, Dieu continue de magnifier sa grâce en nous montrant cette fois, versets 11 et 12, qu'il est en train de réaliser inexorablement un plan bienveillant qu'il a conçu de toute éternité. Qu'est-ce que ça veut dire un plan bienveillant? Ça veut dire ni plus ni moins, d'après la Bible, que Dieu compte réconcilier le monde avec lui-même. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il est immuable ce plan? Ça veut dire tout simplement que Dieu s'est engagé à le réaliser ce plan avant même qu'il ait créé l'univers. Regardons le texte. On a vu que Dieu allait exercer une miséricorde souveraine. Rien ne lui obligeait, il va exercer une miséricorde souveraine avec son peuple. Mais si la raison de cette miséricorde ne se trouve pas chez le peuple, où se trouve-t-elle alors la raison de cette miséricorde? Est-ce que Dieu prend ce genre de décision de façon purement arbitraire? Au hasard, si j'ose dire? Plouf plouf? Pas du tout. Dieu fait miséricorde sur la base de raisons précises, et ces raisons précises se trouvent en lui-même. Dieu fait miséricorde à cause de lui-même. Essayons d'expliquer. Dans les versets 11 et 12, Dieu renvoie le peuple à une promesse millénaire, selon laquelle Dieu allait se racheter un peuple, selon laquelle Dieu allait lui donner un roi à ce peuple, et selon laquelle Dieu allait attirer dans ce royaume des gens de tous les autres peuples du monde. À peu près 1000 ans auparavant, 1000 ans avant l'époque d'Amos, Dieu avait dit à Abraham, par exemple, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » C'est Dieu qui fait des promesses, n'est-ce pas ?« Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction un peu plus loin. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu s'engage, fait une promesse à Abraham. 1000 ans avant Amos. 300 ans avant Amos, au roi David, cette fois, Dieu dit « Je maintiendrai ta descendance après toi, le roi David, le roi d'Israël, d'accord, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. » Dieu s'engage, fait des promesses qui sont anciennes à l'époque d'Amos. Mais où en est ce projet? Où en est ce projet à l'époque d'Amos? Les choses ont plutôt mal tourné, on l'a vu, depuis le début du livre, depuis 9 chapitres. Les choses ont plutôt mal tourné, le royaume d'Israël est divisé, et le peuple est globalement apostat, infidèle, ils ont renié Dieu. Et pourtant, cela n'a pas fait renoncer Dieu à son projet. Au contraire, il va intervenir, dit-il, en personne pour relever la cabane chancelante de David. C'est l'image du roi David qui habiterait dans, malheureusement, une petite tente avec des fuites, vous voyez, qui ne tient pas très bien au vent. Ce n'est pas digne du roi. Dieu dit, je vais intervenir et je vais relever cette cabane. Je vais la réparer, en réparer les fuites, les brèches, la rebâtir. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Tout cela afin d'attirer dans ce royaume toutes les nations, toutes ces nations païennes, ces nations environnantes, Édom et compagnie, des nations qui, pour un grand nombre d'entre elles, sont même des nations ennemies de la nation d'Israël. Ce qui se passe ici est remarquable. Est remarquable parce que la prophétie d'Amos, alors là j'en appelle à vos souvenirs si vous étiez là il y a plusieurs mois, la prophétie d'Amos avait démarré avec un long réquisitoire qui dénonçait le comportement inhumain de ces peuples, en question de ces peuples païens, et la manière dont ces nations se déchiraient entre elles. Et ici, Dieu est en train d'annoncer la réconciliation de ces nations par l'intermédiaire de son peuple saint et l'intervention de son Messie. La figure qui est représentée par David ici, évidemment, David lui-même en tant que roi d'Israël dans l'histoire ne va pas revenir en personne. Mais David est une figure du Messie qui doit venir et tout cela, Dieu va le faire en vertu d'un plan immuable conçu de toute éternité. De toute éternité. On a parlé de ce qui s'est passé avant Amos, parlons de ce qui s'est passé après Amos. 700 ans à peu près après sa mort, au prophète, le Messie est venu en effet. Le Messie est venu. Conformément à la promesse, il est venu de la lignée d'Abraham et de la lignée de David. Son nom était Jésus. Et il a relevé les ruines de la cabane de David. Il était le Fils de Dieu, mais il est venu comme un roi serviteur. Il s'est humilié, il s'est livré lui-même afin de payer pour les péchés de son peuple bien-aimé. Il est mort sur une croix, vous le savez, une croix païenne, une croix maudite. Et il a pris sur lui le châtiment destiné à son peuple, alors qu'il était lui-même le seul homme juste qui ait jamais vécu. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il a relevé la cabane chancelante de David. Il a rebâti le temple. le troisième jour, et la descendance promise depuis Adam et Ève. Elle s'est assise sur un trône, non pas sur terre pour régner sur un territoire particulier, mais elle s'est assise, la descendance, dans le ciel, à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, pour régner sur tout l'univers. Et son trône sera pour toujours affermi. Et au moment de son ascension, vous vous souvenez de cette histoire, au moment de son ascension, le jour de son intronisation, en quelque sorte, l'intronisation de Jésus, sachant qu'à partir de ce jour-là, le royaume était censé alors accueillir en son sein toutes les nations sur lesquelles le nom de Dieu serait invoqué, conformément à la prophétie d'Amos. Sachant tout cela, Jésus s'est tourné vers ses disciples et il leur a dit « Voici, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples en invoquant sur elles, par le baptême, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si vous me permettez cette paraphrase. » Tout cela pour dire quoi? Je sais que c'est un peu compliqué, on s'est un peu écarté, mais tout ça pour dire quoi? Pour dire que Dieu est en train de réaliser inexorablement un plan bienveillant qu'il a conçu de toute éternité, tout simplement. Si Dieu fait miséricorde, c'est à cause de lui-même, en vertu de ce qu'il avait prévu de réaliser, en vertu de ses engagements unilatéraux, en vertu de ce qu'il s'est déterminé, de ce qu'il était déterminé à faire par son fils Jésus-Christ. Selon l'apôtre Jean, Jésus-Christ étant l'agneau immolé. Quand est-ce qu'il a été immolé? Dès la fondation du monde. Vous voyez, Dieu avait prévu avant même la création du monde que son fils viendrait pour racheter son peuple. Imaginez que vous vouliez faire un beau cadeau à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Un beau cadeau à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Vous avez donc une idée. Vous allez y mettre de l'effort et vous allez lui peindre un tableau. Ah, ça c'est du travail, hein. Vous passez donc de nombreuses heures dans votre atelier, ou dans votre sous-sol, enfin peu importe, et vous voulez vraiment que l'œuvre d'art soit la plus réussie possible, la plus belle possible, d'accord? Vous y mettez tant d'efforts. Et puis après de nombreux mois, une fois le chef-d'œuvre terminé, alors vous allez le présenter à votre ami, vous lui offrez pour son anniversaire, et votre ami vous remercie beaucoup. Et puis, quelques mois plus tard, vous êtes invité chez cet ami en compagnie d'autres personnes. Et vous êtes heureux de voir votre tableau accroché de façon assez ostentatoire juste au-dessus de la cheminée. Puis petit à petit, les convives se mettent à complimenter votre ami pour ce magnifique tableau qui habille si bien la pièce et qui est de si bon goût. Mais votre ami, qui visiblement est très heureux de ses compliments, ne dit pas un mot sur l'origine et l'auteur du tableau. Ben, ça fait un peu mal quand même, non? Franchement, nous aussi, n'avons-nous pas tendance à usurper quelque peu le mérite et la gloire de Dieu dans le salut qu'il nous offre en Jésus-Christ? Il est pourtant, lui, à lui tout seul, totalement l'auteur de notre salut. Il n'y avait rien en nous pour faire qu'il nous aime, rien du tout. Rien en nous qui fasse qu'il nous choisisse avant la fondation du monde et qu'il nous rende saints et sans défaut devant lui en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir à notre place, afin que nous ayons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous, selon les paroles de l'apôtre Paul. Dieu ne nous sauve même pas parce qu'il aurait vu à l'avance qu'on serait, le jour où on existerait, des gens assez intelligents pour comprendre l'évangile et répondre par la foi. Non, c'est pas comme ça que Dieu a fonctionné. C'est pas parce qu'il aurait vu à l'avance, hein, celui-là, Alex, il sera intelligent, je le sais, je sais tout d'avance, et il va comprendre l'évangile. Donc pour lui, ouais, je vais envoyer mon fils. Non, pas du tout. Non, c'est lui, nous dit l'Écriture, qui est l'auteur de la foi. Et il est même celui qui l'amène à la perfection. Il est celui qui la complète parfaitement, cette foi. Et tout cela répond à ses propres desseins, des desseins bienveillants et immuables. Réfléchissons donc un petit instant encore. Quel changement d'attitude cette réalité doit-elle entraîner dans notre vie? Si vous avez, ce matin, si vous avez placé votre confiance en Jésus pour le pardon de vos péchés, et si vous vivez par conséquent dans une relation personnelle et vivante avec Dieu, pensez-vous que vous pouvez regarder les autres de haut, notamment les non-croyants? Pensez-vous que vous pouvez regarder les autres de haut, notamment les non-croyants? Dieu veut changer notre suffisance en reconnaissance pour ce qu'il a fait. Et pour cela, voici ce qu'il nous dit ici. Alex, je suis en train d'accomplir quelque chose d'extraordinaire auquel tu peux prendre part, mais ce n'est pas à cause de toi que je le fais. C'est à cause de moi, dit Dieu. Dieu, encore une fois, est en train de magnifier sa grâce. Mais regardons la suite et la fin du texte un peu plus rapidement. Et dans la suite et la fin du texte, Dieu est toujours en train de magnifier sa grâce. C'est vraiment son but dans la conclusion de ce livre du prophète Amos. Et cette fois, pour magnifier sa grâce, il veut nous montrer que le salut qu'il nous offre dépasse de loin tout ce qu'on pourrait jamais imaginer. Qu'est-ce que ça veut dire le salut ? Ça veut dire prendre part à tous les privilèges propres à Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au salut en ces termes ? Qu'est-ce que ça veut dire le salut ? Ça veut dire prendre part à tous les privilèges propres à Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que cette réalité est inimaginable ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de commune mesure entre nos expériences les plus heureuses ici-bas et la gloire du paradis. Regardons le texte encore une fois. Dieu a dit aux Israélites, donc au début, qu'il allait les sauver malgré eux. Ensuite, il leur a dit qu'il allait les sauver à cause de lui-même, à cause de son plan immuable, de ses desseins éternels. Et maintenant, il va leur dire à quoi ressemble ce salut. Et le langage qu'il emploie ici est très évocateur. D'abord, un langage imagé, vous l'avez remarqué, un langage imagé, hyperbolique, pour montrer que la félicité du royaume messianique est absolument époustouflante, pour ne pas dire estomacante. Regardons ce qu'il dit. « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le jus de fruits ruissellera des montagnes, et où toutes les collines s'épancheront. » Dans certaines traductions, peut-être que vous avez une traduction un peu plus littérale, et vous avez « où le laboureur dépassera le moissonneur ». Vous imaginez ? Ça pousse tellement vite, c'est comme Lucky Luke qui tire plus vite que son ombre, ça pousse tellement vite que le moissonneur n'a pas eu le temps de finir le moissonneur n'a pas fini son travail que le laboureur arrive et le dépasse, tellement ça va vite. Et puis, en ce qui concerne les montagnes, vous avez peut-être une traduction qui dit que les montagnes elles-mêmes vont s'écouler, comme si c'était les montagnes qui fondaient et qui devenaient liquides, comme une belle glace là, pleine de gorgées de jus de fruits et de sucre qui fond. Et c'est un délice pour ceux qui sont là. Un langage imagé, hyperbolique. Ensuite, on a un langage qui est propre à la loi de Moïse, où il dit « Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront les villes, ils les habiteront, etc. etc. » Un langage qui est propre. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé du langage que Dieu employait, qui était propre aux malédictions prévues dans la loi de Moïse. Maintenant, il emploie le langage qui est propre aux bénédictions prévues dans la loi de Moïse, prévues pour le peuple en cas de fidélité à l'Alliance. Et jusque-là, dans le livre du prophète Amos, encore une fois, si ça vous intéresse, je vous invite à écouter toutes les prédications qui ont précédé, elles sont sur le site de l'Église. Mais jusque-là, dans le livre du prophète Amos, il avait été question de tout le contraire de ces bénédictions, que des malédictions, que des jugements, que des sentences, à cause de l'infidélité du peuple. Mais maintenant, Dieu choque son peuple de nouveau. Il le prend à contre-pied de nouveau, en promettant de lui donner tout ce qu'il a longuement dit qu'il allait leur retirer. Et il va leur donner même bien plus. Le lecteur attentif aura compris, bien entendu, que tout cela qu'il va donner au peuple découlera exclusivement de ce que le Messie aura accompli pour le peuple. Autrement dit, Dieu fait prendre part son peuple, par pure grâce, à tous les privilèges propres à son Fils unique. Je vous assure que vous ne pouvez pas réfléchir très longtemps à cette idée, à cette réalité, sans être absolument ébloui. Je me souviens d'une émission qui passait il y a quelques années sur la Une, je crois, et dont le principe était de réaliser les rêves des candidats. Peut-être que vous avez vu des émissions similaires. Mais pas seulement de réaliser les rêves des candidats, le but était d'aller au-delà même de leurs rêves les plus fous. Je me souviens du présentateur, je pense que c'était Arthur. Vous savez, le présentateur Arthur. Qui appelait les gens au téléphone et qui leur annonçait « Monsieur Intel, tenez-vous bien, je vous appelle de la part de TF1 pour vous annoncer que vous avez gagné une magnifique croisière en Méditerranée pour 4 personnes d'une valeur de 3 900 €. » Oh, c'est vrai, oh, ça vous fait plaisir, oui, oui, oui. Eh bien, ce n'est pas tout. Sachez qu'en plus, nous vous offrons également une voiture de sport d'une valeur de 45 000 €. Oh, c'est pas vrai, c'est... Oh, chérie, viens vite au téléphone. Et je ne vous ai pas encore parlé du chèque, le chèque qui est écrit à votre nom et qui comporte un montant à 6 chiffres. Alors là, explosion de joie, évanouissement et compagnie. Hein. Bref, vous avez bien compris, le but de ce genre d'émission, c'est d'émouvoir les gens. Et puis oui, peut-être de les faire éclater de joie, et puis qu'on puisse avoir ça, qu'on puisse le filmer et le montrer aux gens, et peut-être leur faire plaisir ou les rendre jaloux, je ne sais pas. Mais comment réagiriez-vous si vous étiez à la place d'un de ces candidats que Arthur vous téléphone, vous dit « Ouais, j'ai une voiture, une croisière, un chèque, j'ai tout ce que tu veux, je te le donne, quoi. C'est TF1 qui paye. » Comment vous réagiriez? Si vous me permettez cette comparaison... Franchement, le discours de Dieu dans ces derniers versets d'Amos est un peu similaire. Il est un peu similaire. Ce discours de Dieu, il est là pour émouvoir le peuple, pour l'émouvoir. Il veut les faire éclater de joie, ou peut-être qu'il veut les faire fondre en larmes plutôt, je ne sais pas. Il leur montre que le fruit de sa grâce, qu'il exerce souverainement en vertu d'un plan bienveillant qu'il a établi avant même de créer le monde, eh bien que ce fruit de sa grâce leur est en réalité inconcevable, inconcevable, inimaginable, époustouflant. Pourquoi ? Parce que ce salut dépasse non seulement leur capacité à le mériter, mais aussi leur capacité à l'imaginer. Réfléchissons-y également un petit instant avant de terminer. Si Dieu vous a donné la foi, si Dieu vous a donné la foi pour que vous soyez pardonné de vos péchés, s'il a payé le prix de votre rédemption, c'est pour vous faire prendre part à tous les privilèges propres à son Fils éternel, le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre parle de cela comme d'un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous, dit-il, qui êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. L'auteur de l'Épître aux Hébreux emploie une expression que j'aime beaucoup. Il parle d'un si grand salut. Un si grand salut. Et il dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que nous avons été rendus participants du Christ. Façon très simple de le dire, nous avons été rendus participants du Christ. L'apôtre Jean, quant à lui, dit que Jésus va nous faire asseoir avec lui sur son trône. Alors est-ce que notre condescendance vis-à-vis des incroyants ne devrait pas plutôt céder la place à une sincère et profonde compassion? Dans ce but, voici ce que Dieu nous dit dans ses derniers versets. « Alex, écoute-moi, tu ne peux même pas concevoir le destin que je te réserve si tu me fais confiance. Tu ne peux même pas le concevoir dans ton esprit. Ça dépasse non seulement tes aptitudes, mais même ton imagination. » Vous voyez que Dieu est bel et bien en train de magnifier sa grâce dans ce texte. J'ai été long, alors je vais rapidement terminer. Qu'est-ce qui traduit dans votre vie votre propre orgueil et votre propre suffisance? On a parlé de la façon dont on réagit face aux gens qui n'ont pas, comme nous, la chance d'être assez intelligents pour connaître Dieu. Bien sûr, vous avez vu que cette attitude était intolérable aux yeux de Dieu. À travers ce texte, le dernier, donc, de la prophétie d'Amos, Dieu a voulu magnifier sa grâce en conclusion, dans le but de transformer notre orgueil en humilité, notre suffisance en reconnaissance, notre condescendance en compassion. Puisse le Christ habiter dans nos cœurs par la foi, comme le dit l'apôtre, afin d'être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen.